Radio Kapi. Oh, Kapi. À la une de cette édition, le plan de retrait de la MONUSCO va s'appliquer à l'horizon 2024. C'est la conclusion des travaux lancés par le groupe de travail conjoint depuis le 5 juillet dernier. Conclusion validée hier en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, et du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Arrivé vendredi à Kinshasa d'un lot des nouvelles doses de vaccins AstraZeneca destinées à couvrir les besoins des primo-vaccinés à Kinshasa et dans les provinces, ce lot des vaccins est un don du Royaume-Uni à travers l'initiative COVAX. Un groupe des professeurs de l'université de Kinshasa vient de publier chez Academia Louvain-la-Neuve, sous la direction, un livre intitulé « L'éducation prénatale naturelle, socle du développement national ». Pour en parler, nous recevons le professeur Jean-Pierre Lotoy Ilongo-Banga de la faculté des sciences sociales et politiques de l'université de Kinshasa. Bienvenue à tous. La situation se précise de plus en plus sur le retrait de la MONUSCO. Les travaux lancés par le groupe de travail conjoint depuis le 5 juillet dernier ont accouché d'un plan de retrait. C'était le samedi 14 août lors de la validation des 10 travaux en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, et du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Selon ce dernier, les deux parties sont arrivées à un plan de retrait à l'horizon 2024. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge le dit à Paul Matendo.
Depuis le 5 juillet, nous avions lancé des travaux conjoints justement sur le plan de retrait responsable de la MONUSCO et nous sommes heureux d'avoir respecté les délais qui nous amenaient jusqu'en principe au 15 août pour valider ces travaux. Travaux où nous avions plusieurs thématiques, la protection des civils, le programme de désarmement et démobilisation et réinsertion sociale, ainsi que les réformes institutionnelles. Et donc nous sommes arrivés sur un plan bien précis qui concerne ce retrait à l'horizon 2024. Ici, il était question de valider les travaux qui ont été faits dans les différentes commissions. Il va nous rester, bien sûr, une étape de toilettage et de signature du rapport qui sera présenté au mois de septembre aux Nations Unies. Nous voulons que cela se fasse dans le bon esprit que nous avons eu dans les travaux jusque-là.
En ville de Beni, des coups de feu ont été entendus pendant plus ou moins une heure de temps dans le quartier Tamende. La police qui était en face d'un groupe des bandits bien armés a mis la main sur certains criminels pendant que d'autres ont pris fuite. Pour l'instant, leur fouille continue dans ce quartier. Marc Marofimbo pour des précisions.
Vers 1h du matin, des coups de feu ont retenti dans la cellule Tamende, quartier Kalinda, en commune de Moulekera, vers la partie ouest de la ville de Beni. Selon les témoignages des populations ce matin, un groupe de bandits armés en jeep cambriolait des maisons dans les avenues des antennes. Ces derniers, selon la police, se sont heurtés ensuite à une patrouille mixte PNC-FRDC, d'où les tirs nourris attendus. Un des criminels a été arrêté, tandis que d'autres ont pris la fuite. Les commandants ad interim de la police ville de Beni appellent la population à la vigilance et s'interrogent sur l'utilisation réelle du mécanisme de vigilance mis en place dans les quartiers. Le commissaire supérieur Jean-Fabien Sébastien Kahuma Lemba.
Les gens doivent s'imprégner de la situation et s'acquérir comme leur affaire à eux. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas tout simplement l'armée, la police et les autres services, mais de tout un chacun. Ils ont lancé un principe de Chunguza Jirani. Mais est-ce que c'est de cette façon qu'ils sont en train de faire?
Ce dimanche matin, la police a continué à ratisser la cellule Tamende dans les quartiers Kalinda. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Je le disais en titre, arrivé ce vendredi dans la soirée des nouvelles doses d'AstraZeneca à Kinshasa, il s'agit d'une partie de la deuxième livraison de ces vaccins, dont du Royaume-Uni à travers l'initiative COVAX. Elle a été réceptionnée par le vice-ministre de la Santé qu'entourait l'ambassadeur du Royaume-Uni, le représentant de l'UNICEF et la directrice du programme élargi de vaccination PEV. Ce lot des nouvelles vaccins est destiné à couvrir les besoins des primo-vaccinés à Kinshasa et dans les provinces. Jean-Pierre Elali Coco a vécu l'événement. Voici son reportage.
C'est sur le coup de 19h, heure de Kinshasa, que les A330 de Brussels Airlines a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, une première partie des 51 000 doses de vaccins AstraZeneca. Le lot a été réceptionné par la vice-ministre de la Santé. Madame Véronique Kilumba Nkulu exprime sa satisfaction.
Pour nous, c'est un ouf de soulagement parce que au moins nous pensons que nous allons reprendre les activités de vaccination. Et nous allons le plus tôt possible déjà redéployer les vaccins.
Émilie Maltin, ambassadeur britannique dont le pays est donateur.
Nous avons aussi aujourd'hui fait arriver ces vaccins.
Enfin, pour le représentant de l'UNICEF, Edouard Bagdeder, d'autres lots suivront.
Il y a déjà eu un premier lot auparavant, c'est un deuxième lot. Et on espère le compléter très rapidement avec des lots de Moderna, des lots de Pfizer des lots de Johnson & Johnson.
Notons que ces doses réceptionnées sont destinées à assurer la seconde injection de la majorité des personnes ayant déjà reçu leur première dose des vaccins anti-Covid.
Et puis, le gouvernement annonce l'allègement des mesures contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite samedi à la RTNC, le ministre de la Communication a indiqué que les nouvelles contaminations ont baissé de 80 à 15%. Ainsi donc, le couvre-feu passe de 23h à 4h du matin. La réouverture des bars, terrasses et boîtes de nuit et aussi les salles de fête avec l'occupation de moitié de la capacité de la salle. Mais le gouvernement a maintenu les mesures prises dans les quatre provinces particulièrement touchées par la pandémie, à savoir le Lualaba, le Haut-Katanga, le Sud-Kivu et le Nord-Kivu. Clôture vendredi de la session de formation organisée du 12 au 13 août à Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombé, par le Programme national de la santé scolaire et universitaire à l'intention des formateurs provinciaux et enseignants du primaire et secondaire de la paroisse éducationnelle Maïndombé 1 sur la prévention du coronavirus. Cette formation vise à stopper la propagation de cette pandémie au sein des établissements scolaires, a fait savoir Paulin Kimbwende, l'un des formateurs qui invite les participants à restituer la matière à la base. Selon lui, les notions sur la Covid-19 seront insérées dans les branches des cours existants afin de permettre aux élèves de lutter contre cette maladie. Irène Bomba nous en parle.
Renforcer la communication pour limiter la transmission de la pandémie à coronavirus sur toute l'étendue de la province de Maïndombé, surtout en milieu scolaire, tel est l'objectif principal de ces assises de 2 jours organisées par le Programme national de la santé scolaire et universitaire à l'intention des enseignants et des formateurs provinciaux à Inongo. Paulin Kimbwende est l'un des 2 formateurs venus de Kinshasa.
Ils ont été formés, qu'ils aillent dans un premier temps réussir d'abord la formation. Les enseignants ont été formés pour voir comment ils peuvent insérer ces notions sur la COVID dans les branches existantes. Nous appelons ça les branches d'accueil. On peut enseigner les notions de COVID même en histoire, en français, même en biologie, même en chimie, afin que nos élèves puissent lutter contre la COVID-19.
Et Karine Mpoto, l'autre formatrice, n'a pas manqué de mots.
Nous voulons à ce que nos élèves, nos enfants soient nos relais communautaires. Que nos enfants comprennent bien la matière de telle façon à ce qu'ils puissent communiquer au niveau de la communauté. Et à partir de là, nous pourrons faire face à cette pandémie.
Notez, cet atelier financé par l'UNICEF qui s'est clôturé vendredi a connu la participation de 70 personnes, dont 50 enseignants du primaire et du secondaire de la province de Maïndombé et 20 formateurs provinciaux. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Maniema, quelques inspecteurs et cadres de l'enseignement dont la province éducationnelle Maniema 1 vient d'être formés sur les moyens de prévention de la pandémie de coronavirus en milieu scolaire. Cette formation avait pour but d'outiller les participants pour que cette pandémie n'atteigne pas les élèves. Les facilitateurs de cette formation sont venus de la division de l'EPST Kinshasa. À la fin de ces assises, le Proved invite les bénéficiaires de la formation à restituer les acquis aux enseignants et chefs d'établissement. Nestor Tumbandaye, au micro de Florence Kizalunga.
Qu'est-ce qu'on poursuit? C'est toujours des mesures préventives pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Vous savez que notre ministère national a mis le paquet pour qu'on ne puisse plus fermer les écoles à cause des pandémies de coronavirus. Alors, et les autorités nationales ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de cas de coronavirus dans les milieux scolaires. C'est ainsi qu'il nous a envoyé des instructions. Nous avons sensibilisé. Ils viennent d'envoyer les formateurs nationaux pour venir former un noyau provincial de lutte contre le coronavirus dans les milieux scolaires. scolaires. Dans l'avenir, c'est de multiplier ce genre d'ateliers pour renforcer les capacités de tout le monde, que chacun ait d'abord l'idée que la pandémie existe, qu'on encadre bien les enfants, qu'on laisse les blagues de dire le coronavirus n'est pas encore chez nous. Nous, école, vous, chef d'établissement, vous, enseignants, vous suivez ce qu'on vous dit. Donc, j'attire l'attention. Cette formation a des répercussions, chers parents. Vous suivrez ce que votre enfant viendra vous dire. Voilà ce qu'il faut pour ne pas contaminer les gens à cette pandémie de coronavirus.
Un accident s'est produit ce samedi dans la soirée à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Un avion a percuté un motard sur la piste d'atterrissage. Les 18 passagers ainsi que tous les membres de l'équipage en sont sortis indemnes. À cet effet, le ministre de Transport et Voies de Communication et de Désenclavement a convoqué une réunion pour ce dimanche dans le but d'analyser ce qui s'est réellement passé et d'en établir les responsabilités. Jean Guindou.
Le drame est survenu ce samedi aux environs de 19h heure locale. L'appareil de la compagnie d'aviation Congo Airways qui provenait de Mbujimayi avec des passagers à bord était dans sa phase d'atterrissage quand il a heurté une moto qui conduisait un élément de la garde républicaine qui traversait la piste. Ce dernier s'en est tiré avec des blessures et sa moto déclassée. Quant à l'avion, il a subi d'importants dégâts matériels. Sa partie d'avant est endommagée et des pneus crevés. Tous les autres passagers en sont sortis indemnes. L'opinion se demande donc d'où venait ce motard et comment a-t-il pu se retrouver sur la piste avec sa moto. Et c'est justement pour tirer au clair cette affaire qu'un communiqué signé ce même samedi par le directeur de cabinet du ministre Chérubin Okende, indiquant que, sur demande du premier ministre, la task force mise en place au ministère des Transports, Voies des Communications et de Désenclavement s'emploie à lancer les investigations pour déterminer les failles administratives et sécuritaires à la base de ce malheureux événement et cela en vue d'en établir les responsabilités. Déjà, une réunion est convoqué à cet effet pour ce dimanche. Elle sera dirigée par le ministre des tutelles. Ils sont conviés, les différents responsables de la RVA, ceux de l'aviation civile, le président du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents de l'aviation, sans oublier le commandant de l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Tanganyika, lutte contre la pléthore des services de l'État au port de Kalemie, le ministre provincial de l'Intérieur visite les installations du port pour remettre de l'ordre. Le chargement des cargaisons organisées tard la nuit de vendredi a contraint le ministre et son homologue des transports de se rendre sur le lieu. Du coup, les responsables des quatre services autorisés à tourner au port sont invités au cabinet du ministre provincial de l'Intérieur. François-Xavier Mibé.
Ce que nous constatons au port, il y a un peu une exagération. Le texte dit ça, une intervention quelconque.
C'est en ces termes que l'un des agents des services censés travailler officiellement au port s'est exprimé devant le ministre provincial de l'Intérieur en visite au port des Kalemie. Le ministre provincial de l'Intérieur n'a pas tardé de réagir, Dédoné Kamona.
Et on est en train de tracasser la population.
En dehors des services de l'intelligence, il existe quatre services autorisés par la loi congolaise à œuvrer au port des Kalemie. Le ministère provincial de l'Intérieur reconnaît la DGDA, l'OCC, l'hygiène aux frontières et la Direction générale des migrations. Mais toutefois, les opérateurs économiques notent la présence d'autres services des ministères provinciaux qui restent actifs dans la perception au port des Kalemie. Le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kamona, marque sa fermeté.
Nous avons enregistré beaucoup de désordres. Nous voulons mettre de l'ordre dans les ports des Kalemie.
Qu'est-ce qui vous fait croire, monsieur le ministre, que cette fois-là, ça va être la bonne?
L'État reste toujours l'État. Le gouvernement ne peut pas échouer. Les gens qui travaillent ici, ce sont nos agents. C'est nous-mêmes qui les envoyons. On va parler avec leur chef. C'est lui qui va aller à l'encontre des instructions du gouverneur de province. Ah, il va tirer les conséquences lui-même. Je vous promets, on va mettre quand même de l'ordre. Mission vraiment régalienne d'un gouvernement responsable.
Du port des Kalemie, on saute Djabemi Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, le Conseil militaire de transition a nommé par décret ce samedi les quelques 70 membres qui composeront le comité d'organisation du dialogue national inclusif. Ce dialogue doit avoir lieu dans les prochains jours et permettre l'organisation d'élections présidentielles et législatives. En Côte d'Ivoire, Pascal Afinguessan a présidé le samedi 14 août une réunion extraordinaire du comité central du FPI au siège du parti à Abidjan. Cette rencontre intervient après l'annonce par Laurent Gbagbo de son intention de créer une nouvelle formation politique et de renoncer au FPI, légalement passé aux mains de Pascal Afinguessan alors que l'ancien président ivoirien était en détention à la Cour pénale internationale.
L'invité.
Nous recevons le professeur Jean-Pierre Lotoy Ilango-Banga de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Kinshasa. Un groupe de professeurs de cette université vient de publier chez Academia Louvain-la-Neuve, sous sa direction, un livre intitulé « L'éducation prénatale naturelle, socle du développement national ». Le professeur Lotoy donne la quintessence et la portée de cette étude dans cet entretien. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Professeur Jean-Pierre Lotoy Ilango-Banga, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Un groupe de professeurs d'université de Kinshasa vient de publier chez Academia Louvain-la-Neuve un titre tout à fait évocateur, sous votre direction bien entendu, l'éducation prénatale naturelle, socle du développement national. C'est quoi l'éducation prénatale naturelle et pourquoi en parler maintenant?
Pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir dans quel contexte nous nous situons au jour d'aujourd'hui. Notre société d'aujourd'hui se bat pour s'auto-actualiser à un moment crucial. C'est lui où plusieurs dérèglements la caractérisent. Crise morale, crise de l'école, crise économique, crise environnementale, j'en passe. Comment en arriver à bout? Pour y arriver, une convergence parallèle est possible en termes d'initiatives thérapeutiques. En ce qui nous concerne, il est à conseiller d'aller à l'origine de l'humanité de l'homme. Étant donné son ambivalence essentielle et existentielle, l'homme peut se positionner comme un agent de développement social ou peut-être par mégarde en constituer un frein. L'éducation prénatale naturelle est privilégiée par le regard méthodique des chercheurs du laboratoire d'écologie politique, l'Écopole, pour asseoir la validité des deux postulats. 1. La famille, à travers les âges, est la cellule de base de toute société et pour les humains, un milieu où se cultive l'excellence. 2. La femme est l'architecte génétique de la société, parce que c'est d'elle que procède l'architecture génétique qui conditionne la base anthropologique de toute société. En effet, le sein maternel est la véritable source de l'humanité et creuset du développement durable. C'est pourquoi la période qui précède la naissance d'un enfant est un moment important et déterminant. L'éducation de l'enfant doit ou devrait commencer à ce moment-là.
Oui, professeur, voilà. C'est bien, nous sommes toujours dans ces titres. En quoi constitue alors l'éducation comme socle du développement national? C'est le sous-titre de votre livre.
Oui, tout à fait. Mais je viens de dire que l'architecture qui conditionne la base anthropologique de toute société est l'œuvre de la femme. On peut se demander à quel moment précis se construit cette œuvre grandiose. C'est au moment de la gestation. Le Congo démocratique est tout simplement une terre de paradoxes. Scandale géologique, mais aussi scandale de précarité. Pourquoi? Le nœud du problème, c'est l'homme congolais. Et vous savez qu'à son époque, le maréchal Mobutu, d'heureuse mémoire pour l'unité nationale et l'égalité des chances devant la vie, a dit aux Congolais, moto na moto, abongisa, poto bonga, totongamboka. Mais les aérois de l'époque congolais d'aujourd'hui ont rétorqué en disant, moto na moto, abongama, po abonga, atonganzoto. Et vous avez les résultats. Le premier sénateur à vie, Joseph Kabila, était à la recherche d'au moins 15 personnalités pour moderniser ce pays. Les recruteurs lui ont présenté des hommes et des femmes dont il n'avait pas besoin. Et vous connaissez la suite. Au jour d'aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi veut obtenir le changement des mentalités. Tout le monde veut aussi ce changement. Mais trop peu nombreux sont ceux qui veulent réellement changer eux-mêmes. Alors, à travers cet ouvrage, nous disons, pour un changement durable de mentalité qui va donner assise solide à la philosophie du « le peuple d'abord », il est nécessaire d'éduquer les enfants avant leur naissance.
Ce livre parle non seulement de l'enfant, mais aussi souligne l'importance de l'éducation prénatale naturelle et surtout des soins à apporter à la femme en gestation, comme vous l'avez dit, ou enceinte. Pourquoi alors un accent particulier sur la femme?
Oui, mais cela va de soi, parce que la femme enceinte constitue un monde à part et une écologie particulière pour l'enfant à naître, ses trésors. Parce que quand un enfant est dans le sein de sa mère, il est voulu comme un trésor pour tout le monde. Et là, on est devant un dilemme.
Quel dilemme, professeur?
Mais le dilemme, si la femme est traumatisée, maltraitée, Elle sécrète des mauvaises hormones qui vont donner des mauvais stimuli à l'enfant. À sa naissance, ça peut se voir.
Donc il faut traiter la femme en gestation avec beaucoup de délicatesse.
Beaucoup de délicatesse. Si vous voulez avoir un enfant à sa naissance, un bon enfant, un enfant qui pourra être sage dans la société.
Professeur Jean-Pierre Lutoyi Ilangobanga, je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-Pierre.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Il a été mis en onde par Jean-Noël Moko. Richard Junior Kamunga était à la coordination, Ben Kabamba à la supervision, je me nomme Nico Kalambay. L'actualité continue sur www.radiookapi.net et sur toutes les plateformes digitales.